Changement de décor, mais tu es toujours avec nous, Pierre. Donc, nous sommes toujours chez IBM et on parle toujours du quantique. Là, on va s'attaquer à la dernière partie de nos interviews, puisque là, on va parler concrètement du comment. Comment on fait pour rentrer dans cette démarche. Et on a changé de décor et on a... Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça, on le sait quand on a l'habitude de voir un petit peu de l'ordinateur quantique, ça ressemble à quelque chose de concret. Allons-y.
Alors, c'est l'intérieur du système 2, une vue simulée du système 2, mais en fait, c'est une reconstitution par rapport à des vraies images de ce qu'il y a. Ce que vous allez trouver là-dedans, c'est donc ce qu'il y a à l'intérieur d'un système quantique IBM. Ce qui est rigolo dans l'informatique quantique, c'est ce qui est un peu iconique et au sens premier du terme, et je vais citer Florian Miconi là-dessus du Crédit Mutuel qui le disait très bien, quand vous cherchez une icône pour faire l'informatique quantique, ce qui sort, c'est le chandelier. Donc c'est ce fameux joli chandelier doré qui en fait n'est absolument rien de spécifique à la technologie ou au fournisseur. C'est quelque chose de très générique, alors pas vrai, il y a des spécificités, etc. Mais ce qui compte réellement, c'est les puces que vous allez trouver dans les boîtes en bas. Le câblage a l'air anodin comme ça, hein, mais ces nappes là que tu vois ici, c'est la difficulté du passage à l'échelle. Et c'est loin d'être simple pour la totalité des entreprises. Et on est extrêmement fiers de ce câblage là, c'est pour ça qu'on montre ces jolies photos. Le refroidissement, les technologies de refroidissement avec les pulse tubes, etc., qui sont aussi extrêmement importantes pour garantir la stabilité du système. Et puis après, d'autres types d'atténuateurs, d'amplifieurs, etc. Bref, le système... Votre information quantique, elle vient de là-haut, elle descend, le calcul se fait en bas, ça repart et ça revient sur votre laptop, code de calcul, sur diverses et variées, etc. sur l'écran.
Et voilà. Et sur les applicatifs derrière qui vont pouvoir exploiter les datas ainsi, ainsi récupérées. On l'a vu sur nos capsules précédentes, on avait en fond donc le nouveau système 2,
ouais.
Donc le système 2. Donc ça, c'est la partie centrale en fait.
Exactement, ça c'est ce qu'il y a dans la partie centrale du système 2. Le système 2, c'est une forme hexagonale. Vous avez ça au milieu et puis sur les côtés, il y a quatre armoires, quatre rangées d'armoires.
Alors, on va parler du déploiement, mais on va en profiter tout de suite pour continuer sur cette image. On le voit concrètement, si quelqu'un veut installer un ordinateur quantique, une fois qu'il a sorti le gros chèque, dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas de prix, hein, on ne sait pas. Mais une fois qu'il a sorti le gros chèque, il ne va pas l'installer dans son data center comme ça.
Alors non, de toute façon, c'est pour nos clients et partenaires qui ont décidé d'installer l'IBM Quantum System 1 d'abord, parce que c'est les premiers qu'on a installés, et demain l'IBM Quantum System 2. Très clairement, il y a eu d'abord un travail d'analyse du lieu dans lequel on va le positionner. La surface en mètres carrés nécessaire pour installer ce genre de choses n'est pas forcément extrême. Le système 1, c'était 3 par 3 par 3, mais il faut l'espace de rotation autour. Les gens dans les data centers connaissent bien ça, c'est habituel. Et puis, il faut la salle technique à côté dans laquelle on va stocker les différents gaz rares pour maintenir le système open running. C'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup de surface, mais quand même, on parle de quoi ? On parle de 30, 40, 50 mètres carrés et un peu plus pour le système 2. Le système 2, c'est plus gros, donc c'est un peu plus. C'est un peu le principe des visites IP, des visites de site. Il y a une planification à voir pour éviter les problèmes de la porte est trop petite, pour éviter les problèmes de le plancher supportera pas, pour éviter les problèmes d'alimentation électrique, pour éviter les problèmes d'alimentation en cuivre, de réseau, etc. C'est très classique pour des gens qui font du data center, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste de la planification. Par contre, c'est une planification, ça prend de 6 à 8 mois le temps de planifier tout ça et d'installer tout ça.
Tout à fait. Par contre, une des particularités, c'est que tu parles de la consommation énergétique, mais elle n'est pas si élevée que ça.
Non, c'est la consommation énergétique d'un système comme ça est vraiment pas très important. C'est plusieurs dizaines de kilowattheures. Donc c'est vraiment, enfin, quand on compare avec des spots ou compare avec des lames de pour faire de l'IA, on n'est pas du tout dans ces trucs-là. Et puis ramener à la consommation en mégawatts d'un data center, parce que ça peut être des fois dans ces cadres-là, on n'est pas du tout sur ces sujets-là. Malgré tout, c'est des choses à prévoir quand même, c'est des choses à prévoir d'un point de vue installation, ce qui fait qu'aujourd'hui l'immense majorité des gens n'ont pas encore prévu d'avoir leur propre ordinateur quantique, mais plutôt d'être dans un cadre d'accès à distance et usage. Il y a une autre raison, Yves, là-dessus, c'est que la technologie, elle évolue vite. Et la technologie évoluant vite, il y a une question de se dire, est-ce que je veux avoir un système à moi et puis je le ferai évoluer derrière, ou est-ce que je me dis, je vais faire évoluer le cloud, mais ça, c'est pas moi qui le fais, c'est mon fournisseur préféré, et quelque part, je tirerai parti de l'usage. Maintenant, l'objectif quand même avec le système 2, et on a aussi beaucoup travaillé là-dessus avec le système 1 avant, mais le système 2 en particulier, c'est des technologies modulaires, c'est un hardware modulaire qui a pour objectif d'être évolutif. C'est-à-dire que c'est pas du one shot et je le jette après, c'est bien une technologie évolutive qui permettra d'accéder à la fin de notre roadmap. On n'a pas prévu de changer de technologie avant la fin de la roadmap qu'on a publiée, 2030 et des patates.
Tout à fait. On fera une autre capsule sur la partie usage. On va juste terminer avec cette question parce que je voudrais juste évoquer un sujet en matière de sécurité aussi de ces équipements, parce que en plus on passe sur des équipements nouveaux. Oui. Modernes, pas forcément maîtrisés par ceux qui vont les acquérir. Vous le faites heureusement, d'ailleurs c'est votre métier. Maintenant j'imagine qu'il faut des démarches de sécurité bien particulières.
Et bien finalement...
Il va me dire non.
Oui, je vais te répondre non. Curieusement, la première machine qu'on a installée en Allemagne, à Fraunhofer, on va pas se mentir, elle était dans une salle IBM où il n'y avait que IBM qui pouvait accéder avec un badge, on avait tout contrôlé, on maîtrisait tout, l'environnement, etc. Mais c'était plus pour une raison qu'on gestion de notre propriété intellectuelle et on avait un peu la trouille de ce qui allait se passer, on maîtrisait pas encore la technologie. Et en fin de compte, maintenant, ce qui est rigolo, c'est que ces technologies-là, on les rend même manageables. C'est un mythe dans l'informatique quantique qu'il faut passer son temps à recalibrer ces technologies-là tous les 15 jours ou tous les jours. C'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, c'est faisable à distance.
On a quand même l'expérience des débuts de l'informatique où c'était comme ça. Donc, oui, pour ceux qui ont cet état d'esprit, se disent...
C'est vrai en laboratoire. Mais c'est pas vrai dans un système industriel.
Voilà.
Dans un système industriel aujourd'hui, ce sont nos clients, donc Fraunhofer, Keio Université et d'autres, qui font eux-mêmes les premiers niveaux de maintenance ou qui sous-traitent à IBM, mais quelque part, on n'a pas besoin de maîtriser l'informatique quantique pour pouvoir faire ce genre de sujet-là. On n'a pas besoin d'accéder à la puce, ça se fait en logiciel et c'est extrêmement stable. On a beaucoup travaillé sur la stabilité de ces technologies-là. Par contre, oui, d'un point de vue data center et risque environnemental du data center, c'est plus sûr, il y a des gaz là-dedans, et donc de la même manière que dans un mainframe j'ai un liquide de réfrigération interne, je sais que quand j'installe un mainframe dans un data center, systématiquement on me demande quel type de liquide de réfrigération, est-ce qu'il y a un bac pour récupérer les fluides pour éviter que s'il y a une fuite de ces fluides, j'ai un problème. Et bien là j'ai les mêmes choses, il faut que je fasse attention à la petite bonbonne d'azote qui est à un endroit donné, l'azote étant utilisé pour mettre dans le système, c'est pas pour faire fonctionner le système mais c'est pour initialiser le système, et bien il faut y faire attention. Et donc il faut qu'elle soit validée parce que l'azote, ça peut être dangereux pour l'humain. Oui. Voilà. Mais c'est plus dans une notion, il n'y a pas vraiment une sécurité particulière, c'est plus une notion de protection des normes de sécurité des gens qui travaillent dans le data center. Oui. Mais on a l'habitude, tout le monde n'intervient pas sur les courants forts dans un data center ou sur... il y a des...
Heureusement.
Exactement, deux types d'électriciens différents qui vont travailler sur ces sujets-là.
On va revenir sur ces sujets puisqu'on va parler maintenant de l'implémentation,
oui.
On va parler de la gestion de projet, on va parler de l'humain aussi, tu l'as évoqué,
oui,
là,
tout à fait.
Donc ça me paraît être extrêmement important. Donc merci Pierre et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle capsule.